Un bon plan pour mon territoire aussi, avec Martine Bisotta, Damien Carême, Charlotte Isard et Éric Piolle.
Donc on a déjà du retard. Et on n'a pas le droit d'avoir du retard parce qu'il y a une conférence qui va s'enchaîner juste après. Donc je vais commencer. Je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Rebecca Varga. Je vais animer cette petite table ronde sur la question un bon plan climat pour mon territoire aussi, dont l'objectif sera de faire comprendre ce que c'est en fait un plan climat. Bon, si vous êtes ici, vous le savez peut-être déjà, mais peut-être que non, donc on va faire une petite introduction, on va expliquer ça. Ensuite, l'intérêt de ce plan climat en tant que document qui doit nous permettre de relever le défi climatique, et aussi les limites de l'exercice du plan climat. Donc pour répondre à ces questions, on va voir le poids des élus, mais aussi le rôle des citoyens dans le portage des objectifs qui sont fixés dans le document. Donc, il y a pas mal de bruit. Merci. Pour que tout le monde puisse entendre, c'est aussi une question de bienveillance, pour ceux qui entendent peut-être un peu moins. Merci. Comme introduction, je vais faire un petit résumé de la nature du plan climat, à quoi ça sert, pourquoi ça existe, qu'est-ce que c'est en fait. Donc, le plan climat en soi, c'est un document de planification qui existe déjà depuis quelques années dans la politique territoriale, et là il est devenu obligatoire pour décembre 2018 pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Donc, un plan climat, ça se constitue de différentes parties, une partie de diagnostic. Donc, diagnostic du territoire, notamment quelle est la réalité des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Le développement d'une stratégie pour améliorer la politique territoriale sur ce plan-là. Et ensuite, un plan d'action avec des actions concrètes budgétées à mettre en place. Donc, il y a vraiment des objectifs concrets et des objectifs chiffrés à atteindre qui sont dans ce document, ce qui le rend intéressant. Et se trouve aussi parce que c'est un document du coup, qui touche à beaucoup de volets politiques différents. Donc il y a aussi un objectif de mise en cohérence de la politique territoriale dans son ensemble. On peut par exemple parler de transport, d'habitat, d'énergie, de gestion des déchets. Donc de vraiment créer un document qui voit comment on peut articuler tous ces différents axes pour mettre en place une politique climatique territoriale cohérente et performante. Donc, pour répondre aux objectifs que j'ai présentés tout à l'heure, on a aujourd'hui avec nous Charlotte Isard du réseau Action Climat, qui est responsable climat et territoire. Martine Bisotta, vice-présidente à la transition écologique énergétique et à l'agglomération citoyenne de la communauté d'agglomération Pays Basque. Pardon, en fait, c'était pas dans l'ordre, mais vous voyez quand même. Damien Carême, maire de Grande-Synthe, désigné ville capitale française de la biodiversité en 2010, et aussi vice-président à la transformation écologique et sociale de la communauté urbaine de Dunkerque. Et d'ailleurs, une communauté urbaine qui vient d'instaurer la gratuité totale sur l'ensemble de son réseau de transport en commun. Donc, très intéressant. Et Éric Piolle, le maire de Grenoble, ville labellisée site énergie. Qui s'était aussi doté d'un plan climat dès 2005, où il n'y avait pas encore l'obligation. Voilà, donc je vous propose de commencer par quelques questions que je vais poser à chacun des intervenants pour développer un peu plus ce qu'ils font sur leur territoire, et ensuite des questions plus transversales, où il y aura la possibilité de faire échanger les intervenants. Et à la fin, il y aura un peu de temps prévu pour que vous puissiez aussi poser des questions. Voilà. Mais avant de commencer, on va faire tourner une petite couche. C'est pour vous permettre de participer financièrement aussi à l'organisation de ces conférences, parce qu'on fait quand même venir des intervenants loin, il y a une logistique aussi nécessaire. Et pour rendre ça possible, ce serait bien de donner une contribution. Merci beaucoup. Donc on va passer aux questions. Et je vais commencer avec Charlotte, si je peux. Charlotte, tu travailles sur les plans climat depuis un petit moment et aussi dans le conseil aux collectivités dans la mise en place de ces documents. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi le plan climat est un outil intéressant pour enrayer le dérèglement climatique et qu'est-ce qui fait qu'un plan climat est un bon plan climat ou un mauvais plan climat?
Merci Rebecca. Du coup, effectivement, moi je travaille au Réseau Action Climat, qui est une plateforme de coordination entre 21 associations, dont Alternativa, mais aussi Greenpeace, Organic Data, etc. Et donc à la fois de l'expertise communication et de la coordination du plaidoyer. Dans mon cas plus particulier, je travaille sur les outils et les politiques locales. Et pour, du coup, ta question sur est-ce que le plan climat est un bon outil, en l'occurrence, de mon point de vue, c'est le bon outil avec un grand L et avec un grand E. Par contre, et je reviendrai sur ces trois points-là, comme n'importe quel outil, vous pouvez mal vous en servir, et comme n'importe quel outil, vous pouvez éventuellement aboutir au même résultat avec d'autres méthodes. Sur la question du bon outil, l'intérêt du plan climat, si on arrive à s'éloigner du fait qu'il y a des acronymes barbares et que ça peut faire peur, c'est que ça reste un document qui fixe une stratégie pour le territoire. Et c'est extrêmement important, à la fois pour nous, militants citoyens, mais aussi pour les élus et les collectivités territoriales, que de se projeter dans le moyen et dans le long terme, au-delà des échéances et du calendrier politique, et d'arriver à se fixer des objectifs en termes de climat avec une vraie politique transversale. Le cadre méthodologique imposé par le plan climat oblige les territoires à revoir toutes les politiques publiques locales avec des lunettes, avec un filtre climat. Et donc, du coup, à remettre en cohérence l'ensemble des politiques sur tous les secteurs, transport, aménagement, déchets, agriculture, avec un objectif de baisse des émissions de GES, enfin de gaz à effet de serre, baisse des consommations d'énergie, etc. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres documents qui proposent cette méthodologie-là et ce cadrage d'objectifs. L'autre intérêt, à nouveau, aussi bien pour la société civile que pour les élus, c'est que ce document, ce n'est pas une promesse électorale, c'est un document qui est ancré dans le dur. C'est une obligation réglementaire et qui est en lien avec d'autres documents d'urbanisme. Alors, à nouveau, oublions le côté acronyme et la peur que ça peut nous faire, notamment nous, citoyens, quand on cherche à s'impliquer dans les politiques publiques, mais c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va réussir à rendre les choses très concrètes. Ce document est en lien avec ce qu'on appelle des plans locaux d'urbanisme ou des schémas de cohérence. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura acté des objectifs ambitieux en matière de politique climatique, on va ancrer dans le dur, dans des documents avec des formes de cartographie du territoire, et on va vraiment être sur quelque chose de très concret, avec des budgets, des porteurs, des dates. On est relativement loin de la promesse qu'on a pu vous faire en 2014, et sur laquelle vous pourrez certes revenir pour demander sa mise en œuvre, mais sur laquelle vous n'aurez pas plus de poids que les mots qui vous auront été donnés. Là, on est vraiment sur un document qui aura été signé, qui est approuvé à un moment ou à un autre, qui passe entre les mains de l'État. L'autre chose hyper intéressante, c'est que le cadrage de cet outil-là, il permet de réaliser, et pour certains, c'est pas encore hyper clair, je pense, même au niveau de l'État, que c'est vraiment au niveau local qu'une grosse partie de la politique climat-énergie se joue. On a eu depuis 2015 une dernière grosse vague de décentralisation, et c'est vraiment au niveau de nos territoires, et en particulier des intercos, qu'on a les compétences pour agir sur tous les sujets qui traitent du climat. On n'a pas forcément les moyens aujourd'hui qui vont avec, ça c'est une autre question, on va en reparler peut-être, mais toujours dit que les compétences elles se situent là, et c'est aussi l'échelle où pour nous citoyens, on rend visible la transition. Donc c'est vraiment une échelle ultra pertinente, d'une parce qu'en fait on estime qu'à peu près 50 à 70% des émissions de gaz à effet de serre on peut toucher la réduction de ces GES par le niveau local, et puis parce que nous on peut, c'est l'échelle où on vit, c'est l'échelle où on peut s'impliquer aussi. Donc le bon outil pour ça, tu m'as dit 5 minutes, donc je vais vraiment accélérer. Par contre, si je veux planter un cadre dans mon mur, effectivement, mon marteau, c'est un super bon outil. Par contre, je peux aussi complètement planter mon cadre de travers. En l'occurrence, ici, et si vous faites un plan climat, mais qu'il n'y a aucune volonté politique, et que vous vous contentez de prendre la réglementation comme un plancher bas, et d'être sur, je vais faire le minimum syndical que m'impose la loi, ce sera déjà pas mal, la loi a monté d'un cran en termes d'exigence, mais s'il n'y a aucun partage politique derrière, on se retrouve derrière un document qui perd son sens et qui perd de son intérêt. Le plan climat ne marche pas non plus sans ce qu'on appelle une animation territoriale. Il est vrai que les intercommunalités ont un rôle extrêmement important en matière de compétences climat et énergie. Pour autant, si vous ne mettez pas dans la barque toutes les communes membres de l'interco, mais aussi tous les acteurs du territoire, les citoyens, les associations, les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, concrètement, vous n'allez pas toucher à tous les gaz à effet de serre du territoire. Donc il y a un vrai rôle de faire connaître la stratégie climat du territoire et d'embarquer avec vous, avec les élus, l'ensemble des acteurs du territoire pour atteindre les objectifs que l'on se fixe. Et sans cette animation-là, ce document potentiellement reste lettre morte. Autre condition de plantage de cadre totalement traviole, c'est la question de la participation et de l'implication qui aujourd'hui en France n'est pas forcément ce qu'on sait faire de mieux, même si on avance quand même pas mal. Un plan climat dans lequel il n'y a pas eu de mise en mouvement de la société civile, de concertation des acteurs locaux et du coup de prise de conscience de tout un chacun du rôle et de la manière dont on peut s'intégrer dans cette stratégie locale, sera aussi un plan climat qui sera moins motivant, dans lequel il n'y aura pas forcément suffisamment de partage d'action et dans lequel on déconnecte finalement les citoyens et les acteurs du territoire du projet politique public. Et le plan climat, c'est une super opportunité aussi pour remettre le climat à l'agenda local, mais aussi pour impliquer les citoyens, impliquer tous les acteurs, parce que dedans, on va trouver des actions qui sont portées pas uniquement par la collectivité, mais aussi par des acteurs économiques, des acteurs associatifs, etc. Vous pouvez aussi planter un cadre dans le mur et faire du trou partout. C'est pas parce que vous avez un bon plan climat qu'il n'y aura pas à côté des politiques incohérentes en termes de climat. Vous pouvez totalement avoir des objectifs climat hyper ambitieux, des mesures très cohérentes, avec un budget très bien fixé, et à côté de ça, d'autres projets qui vont être climaticides sur le territoire. Malheureusement, c'est totalement possible, d'où à nouveau le rôle de la vigilance citoyenne pour revenir sur cette exigence de cohérence climatique que l'on doit se fixer collectivement. Et du coup, utiliser le plan climat pour cela, en disant à partir du moment où on a un plan climat, c'est-à-dire qu'on a une stratégie territoriale pour le climat, et on ne peut plus avoir de projet qui ne soit pas compatible avec ça. Et enfin, vous pouvez totalement... finalement, pour planter votre cadre dans le mur, vous pouvez aussi ne pas forcément utiliser un marteau, mais le faire avec n'importe quel autre type d'outil, ça pourra potentiellement tenir à peu près le coup. Et aujourd'hui, il y a plein de territoires en France qui n'ont pas attendu la réglementation plan climat pour agir, qui ont mis en place des stratégies territoriales ultra ambitieuses. Vous avez par exemple les réseaux territoires à énergie positive, vous avez plein de territoires ruraux qui s'engagent dans des démarches 100% énergie renouvelable, vous avez des territoires qui fixent des objectifs neutralité carbone, vous avez des territoires qui utilisent des méthodes d'eau, je crois qu'il y a, voilà, on parlera peut-être de synergie tout à l'heure, mais du coup, c'est pas l'unique outil. Aujourd'hui, il est obligatoire et réglementaire, et je pense que pour nous, citoyens, c'est l'occasion à saisir, parce que c'est une manière pour nous de s'y impliquer, d'exiger des rehausses d'ambitions constantes, de proposer des actions. On peut aussi être porteur d'actions dans un plan climat en tant que société civile, et de, surtout d'appuyer les élus qui sont moteurs sur ces plans climat-là. À partir du moment où eux doivent les faire adopter dans leur territoire. Je n'ai pas le temps, mais je te laisse. De toute façon, on a des questions.
Merci beaucoup. Martine Bisotta, nous avons vu que le plan climat, c'était aussi un document qui permettait de mettre en cohérence différents domaines d'action d'une collectivité local. Donc vous travaillez beaucoup sur le triptyque manger, habiter, bouger. Quelle est la réalité de ce triptyque sur le territoire de la communauté du Pays Basque, qui donc est aussi un territoire assez vaste et très diversifié, avec des réalités très différentes dans les différentes parties du territoire. Et est-ce que le plan climat est un outil qui peut permettre de créer justement une cohérence entre ces trois thèmes au niveau du territoire?
Merci, bonjour tout le monde et vous Mme Zéléry. Pour répondre à cette question, d'abord, on a dit déjà pas mal de choses. Si la communauté Pays Basque, elle est toute jeune, elle est née le 1er janvier 2017 et elle comprend 158 communes. Mais le territoire n'était pas resté inactif auparavant. Il y avait déjà deux anciennes agglomérations en Clandina, celui de le territoire ici, Côte Bassado. On l'a initié en 2007, quand on travaillait avec Jean-Marc Jancon ici. Et on s'est rendu compte, que c'était très très difficile de passer du volet patrimonial, c'est-à-dire l'action de la collectivité sur son propre patrimoine. Encore plus, ça ne serait pas toujours facile non plus, il faut remarquer l'ensemble des élus dans cette dimension-là. Mais il était quand même assez difficile, et il y a quelques années, c'était quand même parler d'un plan climat, ça restait quand même très très éloigné des préoccupations, y compris médiatiques, parce que quand on, même quand on faisait venir Jean-Marc, Jean Comissi, qui était quand même assez connu, le volet médiatique était quand même assez faible, et c'était quand même quelque chose qui était loin des citoyens. Donc, nous avons fait plusieurs campagnes au cours de notre travail, et dans une qui a plutôt pas trop mal marché, on a concrétisé l'affaire, c'est-à-dire, en tant que citoyen, si on se pose la question de ce qu'on peut faire pour participer à un effort collectif, il faut quand même voir, vous disiez, la collectivité, elle agit sur le territoire. Mais l'immensité de ceux qui interagissent sur le territoire, c'est la fac, c'est le lycée, c'est l'association sportive, c'est l'ensemble des entreprises, c'est l'hôpital, c'est les déplacements de milliers de salariés. Et donc on a besoin d'embarquer avec nous beaucoup de monde pour qu'au bout du compte, il y ait des résultats assez concrets. Donc habiter, manger, bouger, ça part. Et on avait fait des stands ici, y compris au marché de Bayonne, où il y avait un monde fou, et on s'est rendu compte qu'habiter, par exemple, isoler sa maison, changer ses pratiques de chauffage, penser à la récupération des eaux pluviales, poser beaucoup de questions à énormément de monde. Parce que d'abord, les offres sont multiples, ils ne savent pas très très bien vers quoi se diriger, ne connaissent pas tous les dispositifs financiers qui peuvent aider à passer ce cap, et nous avons eu énormément de questions de gens qui disaient « Moi, je veux refaire l'isolation de ma maison, je fais comment, je m'adresse à qui ?» Donc, des questions très très concrètes. Maintenant, l'agglomération Pays Basque a adopté un dispositif régional de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Arte, où on peut être accompagné, mais dans des proportions de suivi qui sont quand même conséquentes, depuis le diagnostic jusqu'à trouver les artisans, établir le plan de travaux, et y compris des aides financières conséquentes avec un portage du papier par cette agence régionale d'économie et d'énergie. Donc, il y a des choses qui se mettent vraiment en place maintenant. On sent qu'on est passé dans une autre dimension. Bon, bouger, ben, tout le monde l'a compris. C'est la réflexion qu'on peut mener pour se déplacer, si possible, autrement qu'en voiture. Elle est dans une agglomération qui a une typologie très particulière, puisqu'elle n'est pas dense au niveau urbain. Il y a un habitat qui est très relâché, qui est très familial. Et ça a été construit avec simplement une idée autoroutière. Voilà. C'est le summum de ce qu'on peut faire de façon autoroutière. Et il y a des choses absolument invraisemblables. Il y a un quartier, on ne dirait pas la ville, parce que, on va dire que c'est moins bien fait qu'ailleurs, c'est comme ça. Vous avez des maisons, c'est presque un cercle, et c'est que des impasses. Pour emmener les enfants à l'école, il va y avoir au bout du compte 2 km, donc on prend la bagnole, il suffirait qu'il y ait des porosités, et on se retrouve à traverser le pâté de maison. Donc, des conceptions qui amènent aussi des comportements. Ce n'est pas que la volonté des gens, la conception même de l'aménagement du territoire favorise des comportements. Il n'empêche, on voit aussi un basculement des choses. Il y a un effet générationnel, moi je le crois. Beaucoup de couples, on en voit dans notre entourage, plus jeunes, qui décident d'avoir qu'une voiture, par exemple, et d'abolir la seconde, de trouver d'autres moyens, l'un ou l'autre, prend un autre moyen de transport quand c'est possible. Mais cette réflexion-là, elle entraîne quand même de plus en plus. Bon, moi, je veux voir le verre à moitié plein, parce que autrement, après tant d'années à se bagarrer, ce serait parfaitement désespérant et anxiogène. Donc, je pense qu'il y a un changement. Et ensuite, il y a manger, donc un acte que l'on fait tous quotidiennement, mais s'interroger sur ses consommations, essayer de privilégier ce qu'on appelle maintenant les circuits courts, tout le monde a bien compris ce que c'était. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour les filières locales. En plus, ici, c'est appuyé par une monnaie qui s'appelle le chevaux, dont la boucle est bouclée. C'est ça. C'est une, c'est aussi un apport complémentaire. Et il y a effectivement, alors c'est vrai que les amas ont commencé, mais les amas c'est un acte très militant qui touchera toujours d'une part assez relativement faible de la population, mais les fermes ouvrent leurs portes, il y a des marchés de producteurs, il y a d'autres moyens pour changer son alimentation et ne plus forcément aller acheter des pommes qui ont l'air cirées, qui sont faites propres, qui sont sous deux ou trois enveloppes au supermarché du coin. Alors là, je pense que la collectivité, il y a 20 ans, 25 ans, je pense que les élus ne s'occupaient pas de ce que les gens avaient dans l'assiette. Ce n'est pas vraiment leur truc. Et actuellement, ça devient un enjeu majeur, prioritaire. Et la collectivité, elle a un rôle. Elle a un rôle déjà à travers la restauration collective. Nous sommes en train de réfléchir à ça. C'est un vrai levier, une pompe d'amorçage pour conforter les producteurs et leur donner une valeur ajoutée, à leurs produits. On travaille beaucoup ici avec la Confédération Paysanne, avec la Choix de la Chagambara, qui est une association qui a fait un énorme travail sur ce que sont les problèmes de transmission, de transformation, les problèmes auxquels ils s'affrontent. Je crois que là, la collectivité, elle a un levier et nous allons y travailler fortement parce qu'il y a des enjeux énormes pour ce lien santé, environnement, parce que s'il y a des paysans et qu'il faut qu'ils vivent, il y a aussi des consommateurs qui ont la prétention de mieux manger. Donc je pense que ce lien, il faut le travailler en utilisant les moyens dont on dispose, et si valeur ajoutée est un des soucis pour les paysans, pour ceux qui produisent aussi, pour qu'il y ait valeur travail, le travail de la terre, il y a aussi de notre côté un enjeu important, c'est de rendre accessible au maximum de personnes une alimentation plus saine, moins de pesticides, moins d'intrants. Voilà. Alors nous sommes une terre en Pays Basque faible en surface du kilo en bio, avec peu de maraîchage finalement, c'est une terre d'élevage. Donc là aussi il y a des réflexions qui sont menées, il y a des terres qui sont mises à disposition par les communes. Je vois dans la mer d'Argonne, il y a un projet intéressant pour justement rendre de la terre à des pays, faire donner de la terre à partir d'une collectivité à des paysans qui n'ont pas une transmission familiale. Donc, c'est un territoire qui foisonne d'idées, et je conclurai en disant la collectivité ne fera pas tout. Les élus doivent le faire, ils doivent être cohérents. On n'est pas toujours, je vous rassure, il y a encore. C'est comme ça, travailler à la cohérence. Vous savez, on est une petite secte. Moi, je dis souvent ça, ça a été repris par la presse. Alors, quand on est dans la secte, là, on est bien. On se dit, tiens, tout a changé, tout le monde est d'accord. Quand on repart dans la vraie vie, on a le choc thermique, là, c'est important. Mais il ne faut jamais se désespérer, c'est pas bon. On parlait tout à l'heure des assises de l'énergie. On était 4600 à Genève. Merveilleux, on a passé une semaine de rêve. Et on est à la maison et on se rend compte que tout n'y est pas encore. Et on a besoin. Et on a besoin, je le dis, c'est pas du tout de ma voix. Et on a besoin aussi de pousser de la société civile. Parce que quand. Les élus, ils y pensent aussi. Et je crois que ici, le mouvement. Ici, tout cet investissement aide aussi. Aide aussi les élus à aller dans les bonnes décisions. Mais moi, je dis dans les gars. Avec 4 ans, on voit des changements invraisemblables. Ce territoire foisonne d'initiatives. Nous, on fera beaucoup. Mais je crois que nous, on peut aider. On peut aider à porter des projets. Et je crois que c'est dans ce rôle d'animation et d'articulation. Là aussi, il faut des cohérences, parce que les projets peuvent être, sinon contradictoires, du moins très différents. Et je crois que le rôle là des élus, c'est d'être un peu à la charnière des deux et d'aider des projets intéressants à ce niveau-là pour le territoire. Pas dépassé ?
On se rattrapera avec notre question. Damien Carême, vous êtes élu sur un territoire qui fait pas seulement face aux défis climatiques, mais qui connaît aussi des questions sociales. Importante, notamment sur la question de l'emploi. Selon vous, est-ce que le plan climat, c'est un outil qui permet de lier efficacement les questions écologiques, questions de climat et sociales, et comment vous avancez sur cette question sur la communauté urbaine de Dunkerque?
C'est un peu compliqué sur la communauté urbaine de Dunkerque. Est-ce que ça marche?
Ouais.
Parce qu'on est dans une région très industrielle. Enfin, on était dans une région très industrielle et on subit les affres de la désindustrialisation depuis un certain temps. C'est comme ça que ma ville, qui est née pour les besoins de l'industrie dans les années 60, lorsque ArcelorMittal s'est implanté et qu'il y avait à l'époque 12 000 salariés au plus fort, ne compte plus aujourd'hui que 2 400 salariés, et ça fait des vases communicants. Donc moi, aujourd'hui, dans ma ville, j'ai 28% de chômage, parce que sont des salariés, en fait, de, soit directement de l'usine, soit de la sous-traitance, soit de la maintenance de ces sites industriels. Et il y a une vraie culture aujourd'hui de industriel uniquement, et on a à la communauté urbaine, par exemple, un service développement économique qui ne travaille depuis des années que autour de l'industrie, de la présence industrielle. Or, depuis 2014, avec une nouvelle gouvernance communautaire, moi j'ai pris une responsabilité assez large, puisqu'effectivement c'est la vice-présidence à la transformation écologique et sociale de l'agglo, mais en direct j'ai l'énergie, l'environnement et le transport, ce qui donne un peu de cohérence à l'action publique, et j'aide le vice-président qui est en charge de l'élaboration du plan local, enfin du schéma territorial et du plan local d'urbanisme, parce qu'on fait un plan local d'urbanisme habitat-développement, donc il est très large, et je me rends compte que sur la communauté urbaine de Dunkerque, on a 46% de terres agricoles, et aucun permanent dans les services de la communauté urbaine qui compte quand même 1500 salariés, aucun employé qui est spécialiste des questions agricoles. On laisse ça à la FNSEA, grosso modo, à la Chambre d'agriculture. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc, je chamboule un peu les habitudes de cette intercommunalité. Donc, maintenant, il y a des salariés sur les politiques agricoles. Mais je me bats tous les jours pour essayer de changer un peu le paradigme sur l'agglo. Je me bats tous les jours contre des projets de développement, soi-disant, d'agglomération, qui vont à l'encontre, justement, des plans climat qu'on a adopté d'ailleurs il y a 3 ans maintenant. Je prends un exemple, le port de Dunkerque avait un projet de, quand on était sur le tout industriel et on balance vers le tout conteneur dans un projet portuaire à 2030. Le seul problème de cela, c'est que ça va nous mettre 1 500 000 camions sur les routes supplémentaires, sur une autoroute qui traverse la communauté urbaine, donc en proximité des habitations. Et ça n'émeut personne dans l'agglomération, alors qu'on a le taux des cancers des voies aérodigestives supérieur le plus important de France aujourd'hui, notamment lié aux conditions de pollution atmosphérique de notre agglomération. Donc il y a vraiment du travail à faire auprès des élus, non pas que je sois contre un développement du port de Dunkerque, bien évidemment, parce que c'est quand même un poumon économique, mais pas de cette manière-là. Enfin, on ne peut plus l'accepter de cette manière-là. On est depuis le début de l'année à 35 jours de dépassement des seuils de pollution sur l'agglomération, 18 jours d'alerte, ce qui est quand même du jamais vu jusqu'à maintenant. Moi, j'ai même pris un arrêté à partir du 1er septembre qui interdit les compétitions sportives extérieures le jour des pollutions atmosphériques, des alertes de pollution atmosphérique. Donc, j'ai écrit au président des fédérations de foot, de rugby, d'athlétisme, de planche à voile et de la 4e de cyclisme pour leur dire, moi, je prendrai un arrêté pour qualité de l'air impraticable. On a l'habitude de prendre les élus des arrêtés pour qualité des terrains impraticables pour le foot et le rugby, là ça sera qualité de l'air impraticable, c'est un nouveau concept, mais c'est important de protéger les populations là-dessus. Donc on a fait un passage. On a, puisque c'est en charge aussi dans ma délégation, le plan Air Climat Énergie Territoriale, il y a 3 ans. Je crois que les élus n'ont pas réalisé ce qu'ils ont voté. Ça, c'est bien, j'en profite. Donc aujourd'hui, je leur dis, mais si, on a voté un principe, donc le flux doit correspondre à ça. Donc les différentes politiques qu'on met en œuvre aujourd'hui doivent répondre à ça. Il était ambitieux dans ce qu'on peut tenir comme ambition la collectivité. On a beaucoup d'industriels, ArcelorMittal par exemple. ArcelorMittal produit 7 millions de tonnes d'acier par an, et ben donc il génère 13 millions de tonnes de CO2 par an, parce que pour faire une tonne d'acier, grosso modo, c'est 2 tonnes de CO2, tant qu'on n'a pas changé les process industriels, et 13 millions de tonnes de CO2, c'est 10% des émissions de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est 2% des émissions nationales uniquement sur le site d'ArcelorMittal Dunkerque. Donc c'est pour vous dire que si on réduisait même un petit peu là-bas les émissions de CO2, ça aurait un impact général sur le climat. Donc, mais ArcelorMittal, Le patron de l'usine de Dunkerque est charmant, c'est un gars du cru en plus, local, mais il décide de rien. Ce qu'il décide, c'est Londres, et donc il va, et c'est même pas Londres, c'est même pas l'axe minimal, c'est la bourse de Londres qui décide des orientations de l'usine. Donc c'est quelqu'un avec lequel vous ne discutez pas, parce qu'il n'a pas de pouvoir. Alors il y avait une raffinerie aussi totale sur le territoire à l'époque, et pour vous dire, le directeur de l'usine, il a appris la fermeture de la raffinerie à la télé comme les employés, donc pour vous dire que les gens, les directeurs qui sont là, on a 83% des entreprises qui sont présentes, qui n'ont pas leur siège ici, c'est au mieux à Paris, au pire à l'international, donc on a peu de pouvoir en fait sur le monde économique. Alors on l'accompagne, on essaie de mettre en place des dispositifs pour les accompagner, mais c'est pas facile. Donc on joue sur ce qu'on peut faire, les transports, l'alimentation, l'énergie renouvelable et les économies d'énergie, l'éducation populaire, enfin la sensibilisation des populations, c'est important. La consommation, parce que c'est aussi développer l'économie du partage, l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, c'est aussi des concepts sur lesquels on peut avancer, on peut mettre en place des outils à l'échelle d'une intercommunalité, même d'une ville, hein, on peut y aller. Et l'autre notion, c'est l'exemplarité. On ne peut pas demander aux gens d'adapter leur comportement si nous-mêmes, on ne le fait pas dans notre propre collectivité. Et donc ça, je suis très à cheval dessus. Ça me vaut des engueulades avec beaucoup de services et aussi avec les élus, parce que les services font à la limite ce qu'on leur demande de faire. Mais la cohérence, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'elle est indispensable dans notre action publique derrière. Alors sur les transports, je vais passer rapidement et on reviendra dans la discussion après. C'est effectivement, on a fait une refonte totale des transports sur l'agglomération. On n'a pas seulement mis en place la gratuité des transports publics, mais on a refait du site propre, on a augmenté les cadences, on a fait de la fiabilité donc du transport. Et maintenant, ça fait un peu plus d'un mois que le nouveau réseau est en service avec la gratuité. Et on est passé grosso modo de 35 000 voyages jour à 57 000 voyages jour sur le premier mois. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est que les parkings du centre-ville de Dunkerque sont à moitié vides aujourd'hui. Donc, en fait, on a eu un transfert de l'automobile vers le bus. Et on le voit, on a été très emmerdés sur le premier mois parce que les bus étaient complètement saturés. Il a fallu remettre des bus supplémentaires. Et il fallait qu'on tienne, en fait, cet engagement-là. Et franchement, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, une belle réussite sur ce premier mois. Et puis, on a travaillé sur les modes de transport doux, bien évidemment. Il n'y a pas de miracle au-dessus. Mais on était sur une agglomération qui a été complètement détruite pendant la guerre. Et en fait, elle a été reconstruite autour de la voiture. C'est vraiment une agglomération voiture avec des grandes avenues. Et il faut qu'on change aussi l'état d'esprit de la voiture. Alors, il faut, avant de limiter la place de la voiture, il faut mettre en place des alternatives. C'est pour ça qu'on a eu un gros projet autour du transport en commun et qu'on a maintenant des projets autour du vélo. Ils ne sont pas encore tranchés, mais alors les politiques vélo marchent bien. Moi, j'ai instauré une prime dans ma ville pour l'achat d'un vélo qui va à 50% du prix du vélo dans la limite de 200 euros. Et j'ai eu 900 demandes en un an de primes sur la ville. Et à Dunkerque, on est en train de se poser la question des vélos en libre-service parce que sur toutes les stations, il y en a 48 sur l'agglomération, il n'y a que 96 personnes qui l'utilisent quotidiennement. C'est un service qui nous coûte 1 million d'euros. Moi, je pose le principe de est-ce qu'on maintient ou est-ce qu'on supprime en mettant en place une prime à l'acquisition d'un vélo, mais aussi surtout des parkings sécurisés partout sur l'agglo, parce que c'est ce qui manque en règle générale. C'est pas tranché. Comme on a 18 mois des municipales, je dois vous dire que c'est un facteur qui entre en ligne de compte parce que les élus, ils n'aiment pas trop changer les choses 18 mois avant les élections municipales. Donc, comme je ne me représenterai pas, du coup, moi, je vais peut-être forcer la main à tout le monde. Non, mais même si je me représentais, parce que je m'en fous, on ne le fait pas par électoralisme, on le fait par intérêt public. L'alimentation, c'est un gros secteur chez nous. Je vous disais, on n'avait personne sur l'agriculture, on s'est doté de cela. Moi, j'ai initié les cantines 100% bio depuis 2011 sur ma ville. Je pensais que d'autres maires allaient se dire, ouais, on va faire pareil, machin. Aucun, depuis 2011. Mais ils vont tous maintenant le faire parce que c'est la CUP qui va payer. Donc, on a adopté un plan politique alimentaire, agricole et alimentaire il y a quelques mois, un schéma directeur. Et maintenant, on va le décliner en action. Et l'idée, c'est de passer toutes les cantines de l'agglo en bio dès que les marchés publics des uns et des autres seront terminés. C'est pas que les cantines scolaires, hein, c'est les maisons de retraite, c'est les hôpitaux. Il faut que la cantine scolaire, je crois, c'est 144 jours par an. Donc, c'est pas suffisant pour faire vivre des maraîchers ou des agriculteurs dessus. Et mais surtout, c'est créer de l'emploi en relocalisant la production, et donc en mettant sur les terres qui appartiennent, on a quand même la communauté urbaine, on est propriétaire de pas loin de 300 hectares de terres qui étaient mis en bail précaire avec des agriculteurs sans contrainte. Là, j'ai envoyé un courrier aux gens disant, bah, écoutez, vous pouvez continuer à cultiver les terres si vous passez au bio. Et j'ai une réunion avec eux parce que ça gueule. J'ai appris qu'ils étaient tous furieux. Donc je les verrai prochainement pour leur expliquer que c'est pour leur santé à eux que je fais ça, pour le fait qu'ils gagnent mieux leur vie et pour aussi protéger les habitants et pour changer le mode agricole de notre agglo. J'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'on est en territoire de polder, nous, donc c'est des terres gagnées sur la mer et qu'on est très très sujet à la montée des eaux et de la mer parce que on est en train de faire des études pour savoir de quelle hauteur on va remonter les digues pour se protéger des populations. Et on part sur des scénarios qui sont sur les scénarios 1,5 degré. Et vous savez comme moi, si vous étiez à la conférence d'ouverture, que le scénario 1,5 ne sera pas en 2100, mais en 2040 qu'on risque de l'atteindre. Et donc, il faut le temps qu'on prenne des décisions, qu'elles se mettent en route. Ça serait dommage de dépenser des centaines de millions pour se protéger pas suffisamment. Donc, il faut changer aussi le mode agricole, enfin la manière de faire de l'agriculture, replanter des arbres, éviter que l'eau soit rejetée tout de suite dans les réseaux d'assèchement de nos terres. Donc, c'est important pour notre agglomération, mais aussi sur le plan de la protection de la qualité de l'air, puisqu'on sait que ce que les épandages renvoient dans l'air, en plus sur les sols. Sur les économies d'énergie, on a un dispositif qui s'appelle Réflex Énergie depuis longtemps, je vais dire presque 10 ans, on ne doit pas être loin de ça. En fait, on aide les personnes qui veulent rénover leur logement. On leur fait des primes en fonction des montants des investissements, de la logique dans laquelle ils sont partis. Donc, on a fait de la thermographie aérienne il y a 20 ans peut-être, ou 40 ans maintenant. On voyait en fait les sources de chaleur, de déperdition de chaleur des logements. Et donc, on travaille soit sur la toiture, soit sur les fenêtres, soit sur les murs, les portes, etc. Et on aide les propriétaires. On a une aide aussi sur la construction des logements sociaux, mais aussi maintenant privés, pour atteindre des performances énergétiques avec une grille spécifique. Donc on aide au coût du logement les nouvelles constructions. Sur l'énergie, on a un réseau de chaleur qui tourne depuis 89. C'est un réseau de chaleur qui récupère la chaleur d'ArcelorMittal. Et aujourd'hui, on chauffe l'équivalent de 20 000 logements sur l'agglo à partir de cette chaleur fatale. Et on est en train de le multiplier. On a un réseau qui va arriver sur ma ville aujourd'hui qui va chauffer tous mes équipements collectifs et la clinique de la ville. On a lancé un marché groupé d'énergie. Vous savez, les collectivités sont soumises au marché public, donc un marché pour le retour de l'achat d'électricité, où on a imposé 20% ou 50% en variante d'électricité verte. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les prix étaient les mêmes que si on achetait de l'électricité nucléaire. Donc, on ne voit aujourd'hui que quand on fait de l'achat groupé, on peut mettre dans son mix énergétique de l'énergie renouvelable. Moi, sur ma ville, je suis à 100%, donc je ne suis pas rentré dans ce marché groupé, mais à la communauté urbaine, c'est une avancée. Là, il y avait 9 communes sur 20 qui étaient dans ce marché groupé. Il y en a une qui va se retirer, c'est la ville de Gravelines, qui est candidate pour un EPR. Mais c'est pas une boutade, c'est pire. C'est... Et on va créer prochainement une société commerciale d'intérêt collectif pour mettre en termes, on a quand même un peu de soleil dans le nord, et donc pour mettre un cadastre, enfin toutes les toitures des bailleurs sociaux, des collectivités, des particuliers, ensemble pour faire de l'achat groupé de cellules photovoltaïques, négocier les contrats avec les fournisseurs, etc. Et faire peut-être du coup de l'autoconsommation puisque c'est possible maintenant. Beaucoup d'habitants que je vois me disent c'est compliqué, ça pas quoi acheter comme matériel, comment négocier, ça paraît quelque chose. Et donc on mettrait l'ingénierie à disposition de l'ensemble. Et cet achat groupé, pareil, ce groupement nous permettra, je pense, de développer des choses. En termes d'éducation populaire, il y a un learning center à Dunkerque qui tourne autour de la vie durable et de tous ces concepts de plan air climat énergie territoriale. Donc c'est de la sensibilisation des populations, du travail d'émancipation aussi des populations pour les extraire du système dans lequel on est. On a aussi beaucoup de travail autour de l'économie du partage, de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité. Alors c'est soit des hypercafés, soit des frigos solidaires, soit des bons échanges de temps, des choses qui se développent de plus en plus et que les citoyens auxquels les citoyens adhèrent. Moi, je prends toujours cet exemple de la perceuse en me disant qu'en fait, on a choisi d'avoir une perceuse, qu'on a besoin, c'est de faire un trou. Et donc, autant qu'on achète une perceuse et qu'on la mette à disposition d'un ensemble. Donc on a une outil tech aussi dans la ville qui permet d'acheter en gros et puis de pouvoir se partager la propriété de ces événements. Voilà, juste un lien entre plan air, climat, énergie territoriale et plan local d'urbanisme. Nous, on l'a fait tourner, le plan local d'urbanisme, c'est le plan énergie, le plan climat territorial qui a été à la base de la réflexion. Mais on y a introduit aussi la santé, donc la protection de la santé, avec la carte des pollutions atmosphériques et la carte des... le plan de bruit dans l'environnement pour déterminer là où on va faire des zones constructibles ou non sur l'agglomération. Et on a mis en place une grille d'évaluation de tous les projets urbains qui vont sortir au regard de leur proximité des réseaux de transport, de la carte du bruit, de la carte de la pollution, etc., pour mettre des notes, en fait, et de savoir si un projet peut voir le jour ou non. On ira jusqu'à là. Je dois vous avouer que c'est compliqué auprès des élus quand je vous dis qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils avaient voté, mais si on va jusqu'au bout des choses en toute cohérence, eh ben, ça va jusqu'à là, et du coup, ben, ils sont un peu piégés aujourd'hui, mais ils l'ont adopté. Donc maintenant, c'est respecter les engagements que les uns et les autres ont pris. Voilà l'intérêt politique de faire un plan air, énergie, climat territorial. C'est une obligation, mais au-delà de l'obligation, c'est un vrai projet politique et qui peut se décliner dans tous les champs politiques.
Donc, la ville de Grenoble a élaboré, comme je disais tout à l'heure, un plan climat dès 2005, donc sans aucune obligation légale. Pourquoi vous avez fait ce choix? Est-ce que ça vous facilite le travail sur la question climat, mais aussi le développement territorial dans son ensemble, ou est-ce que c'est plutôt une complexification? Et vous pouvez peut-être donner des exemples concrets aussi de mesures mises en place dans le cadre de ce plan climat, notamment sur l'axe transport.
Ouais. Bonjour à tous. Effectivement, le territoire s'est doté d'un plan climat dès 2005, et en fait, ça, c'est déjà le fruit de mobilisation citoyenne et d'élus qui, au bout d'un moment, reprennent ces enjeux du débat public pour en faire une traduction politique. On a été, le territoire a été le premier avec Nantes à mettre le retour des tramways en 87. C'était le premier à avoir remis la piétonnisation dans les années 60. Hein. Nous, on était, c'est pas parce qu'on a été dévasté par la guerre, mais Grenoble a grandi de 100 000 à 170 000 habitants dans les 20 ans de l'après-guerre. C'était la troisième croissance démographique française sur un territoire. Et donc, tout s'est construit pour un rattrapage, notamment en lien avec les JO, mais déjà avant, pour construire des équipements et des infrastructures liées à ces 70% de croissance démographique, à une époque où c'était vraiment le tout voiture. Donc, le plan, c'était architecture sur dalle, autoroute pénétrante jusqu'à l'ultra-centre. Ça n'a été freiné que sur la fin, mais tout était structuré pour avoir des quatre voies qui arrivaient jusqu'à l'ultra-centre, avec même un plan pour démolir le centre ancien qui est dans une ville fondée il y a 2000 ans du temps des Romains, et qui a commencé. Hein, il y a quelques bâtiments qui ont été cassés pour construire une énorme barre, et c'était prévu de faire comme ça des barres sur le centre ancien. Donc ça, c'est le point de départ. Mais du coup, avec un débat public qui s'est construit là-dessus, qui est passé par des premières victoires autour effectivement du tramway, hein, qui a été adopté suite à un référendum local, de façon rigolote, qui est porté par un Carignan, maire de droite, qui a fini en prison, mais qui, pendant la campagne de 83, ne savait pas quoi faire de ce tramway qui était déjà dans les tuyaux, et donc ne savait pas s'il voulait être pour ou contre, parce qu'évidemment son électorat était contre, et il voyait bien que la population était plutôt pour, donc ils ont été sortis en faisant un référendum qui a été gagné 53% pour le tramway. Ça a permis le tramway. Derrière, deuxième élément majeur pour le territoire, c'est justement cette lutte contre le réseau de corruption, et donc qui a fait tomber Alain Garignon dans la corruption avec la Lyonnaise des Eaux, mais qui derrière a donné lieu à une remise en régie publique de l'eau en 99, qui n'a pas été facile non plus, puisque c'était à l'époque des procès faits par la minorité écologiste de la majorité menée par les socialistes. Et c'était donc au tribunal que le combat s'est joué pour remunicipaliser l'eau et en 99. Et du coup, cette culture du bien commun, finalement, à la fois à travers la mobilité et à travers l'eau, s'est propagée et a été portée, notamment par un élu, un maire d'une commune de la métropole, Jean-Marc Curie, qui a porté ce plan climat. Et l'intérêt, effectivement, de ces plans qui sont très génériques, hein, très d'objectifs macro, c'est que, comme le disait Damien, les élus savent pas vraiment ce qu'ils votent. Et d'un autre côté, c'est difficile d'écrire qu'on a des objectifs qui sont clairs et affirmés pour 2050. Et du coup, écrire dans une déclinaison de ces objectifs que, en fait, on ne va pas atteindre ces objectifs, l'écrire qu'on ne va pas le faire, c'est très compliqué. Donc à partir du moment où vous entrez dans une logique de rédaction, c'est très compliqué de construire un plan qui de fait, même sur le papier, n'est pas en cohérence. Donc ça, c'est compliqué. Même si on a vu au niveau au Conseil régional Rhône-Alpes qu'on pouvait tout à fait voter avec des plans air, énergie, climat qui ne rentrent pas dans les objectifs, hein, et donc qui, de fait, ne sont pas en lien avec les objectifs presque légaux que l'on s'est fixés. Après, une fois que c'est voté, c'est pas pour ça que c'est mis en avant. Il y a le plan handicap, un bon exemple, hein, c'est voté, donc l'objectif c'était 2005, on est en 2018, et donc nous sommes dans la énième renégociation de mise aux normes d'accessibilité, et qui maintenant est un plan de 9 ans, donc on a voté en 2015, donc oui, on est en 2024, on a pris 20 ans. Pour donner un autre exemple, la réglementation thermique, la RT 2012, hein, ceux qui s'intéressent un peu à l'énergie, la réglementation thermique des bâtiments de 2012, elle s'appelle RT 2012, elle n'est toujours pas en vigueur. Donc on est maintenant en 2018, et donc depuis 2012, on est, depuis avant, parce qu'elle a été faite à l'époque, en prospective, on dit non, pas tout de suite, là on n'est pas tout à fait prêt, là encore un peu de télé, ah ben là, zut, on n'a pas fait ce qu'on faisait, une fois qu'il est. Et donc, on voit qu'à la fois il y a un intérêt, parce qu'on écrit des objectifs communs, et à la fois c'est pas pour ça qu'ils sont traduits, et donc l'exercice de mise en cohérence derrière, il est nécessaire, il est fort, mais ça permet en tout cas d'avoir des débats sur cette cohérence, et donc une fois qu'il y a une volonté politique, de fait, ça permet d'ancrer les choses. Dans le plan local d'urbanisme en 2014, on a donc modifié le plan d'urbanisme pour que toutes les nouvelles constructions soient en RT 2012 de moins de 20%, qu'il laisse 30% de perméabilité des sols pour qu'il y ait un lien avec la nappe phréatique, enfin, des choses très concrètes qui, derrière, elles, deviennent totalement réglementaires pour des projets opérationnels. Et donc, c'est ça qui permet, en fait, de s'appuyer dans cet élément de conférence, parce que le texte est voté, c'est-à-dire, ben voilà, on a triplé la part du budget vélo sur Grenoble, c'est aussi grâce à cela, là, nous avons lancé un plan, nous, on a les débats là, sur l'énergie, à Grenoble, on a une entreprise locale de distribution, on n'est pas avec Enedis, avec EDF, donc au printemps dernier, on est déjà passé, donc, ville, métropole, et puis l'électricité du syndicat mis des transports en commun en ni fossile ni nucléaire depuis le 1er janvier 2016. Et là, on a lancé un plan d'investissement de cette entreprise locale de distribution pour couvrir l'ensemble des besoins électriques des Grenoblois en 2022 avec une énergie ni fossile ni nucléaire. Ça permet, ça effectivement, de s'appuyer sur ces textes pour dire qu'en 2022, il n'y aura plus de nucléaire ni d'énergie fossile dans l'électricité consommée par les Grenoblois. Tout ça, je crois, fait partie de cette culture des biens communs. Et le débat central, c'est quelle culture des biens communs on a, qu'est-ce qu'on met dans les biens communs, l'eau, le réseau de chaleur, l'énergie, et puis petit à petit, comme ça, étendre cette culture des biens communs. En trouvant des fils qui parlent à tout le monde. Donc, c'est pour ça que le travail sur l'alimentation est intéressant, parce que quelle que soit votre situation culturelle ou économique, en fait, l'alimentation est un sujet qui vous touche. C'est pour ça que la santé est également extrêmement intéressante, parce que là aussi, ça touche tout le monde, quelles que soient vos situations de précarité culturelle et économique, et en fait, c'est fédérateur, parce que ça touche tout le monde. Donc, pour l'alimentation, on est passé, nous, 50% de bio et local depuis notre arrivée. On travaille avec les restaurants et les entreprises pour articuler, structurer les filières derrière, parce qu'évidemment, il faut structurer des filières et puis avoir de la conversion hein, pour pouvoir faire du bio et du local. Il faut travailler sur les prix, hein, parce que, de fait, on on a des contraintes économiques fortes, donc ça permet d'avoir, d'activer d'autres cliquets. On est maintenant à plus d'un repas végétarien par semaine. On fait ça avec des diététiciens, hein, mais ce qui en fait allège aussi notre facture et permet de développer plus le bio. Et puis, on arrive sur des sujets intéressants comme la pollution de l'air, où là aussi, peut-être chez nous, hein, ça fait 6 ou 7 ans que le cross des écoles est annulé une année sur deux pour raison de pollution de l'air. Et donc, c'est un sujet, alors nous en plus, on a la chance d'être entouré de montagnes. Quand on va en montagne, on voit le nuage de pollution, ce qui n'est pas le cas d'habitude avec la pollution de l'air. Donc ça, c'est un outil aussi pédagogique, on va dire, qui fait que quand on le voit, c'est plus facile. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir de négocier de 2014 à 2016. On a fini par signer début novembre 2016 un plan sur la qualité de l'air qui englobait la métropole grenobloise, les deux territoires voisins, les services de l'État, pour prendre des mesures sur la gratuité des transports en commun en cas de pollution, l'information, une prime de conversion des chauffages au bois qu'on a doublé la semaine dernière, qui était entre 800 et 1200 euros pour changer les équipements de chauffage au bois qui sont en hiver des sources fortes d'émissions de particules fines, doubler cette prime, de faire des zones à circulation restreinte. Effectivement, sur la mobilité, on a voté la semaine dernière l'activation formelle de la zone à circulation restreinte qu'on préfigurait depuis début 2017 pour les livraisons. En même temps, on fait des centres de distribution urbaine pour concentrer en fait les livraisons qui viennent en centre-ville et pouvoir faire des livraisons en véhicules non polluants, négocier avec la Poste, qu'on est les premiers territoires, mais ils sortent du fossile complètement. Donc, plein d'éléments comme ça de mise en cohérence. Et le plan climat, en fait, permet cela et permet d'articuler derrière des débats dans le champ local d'urbanisme, notamment sur le foncier, troisième ville centre la plus dense de France. Hein, donc, on est sur un territoire extrêmement dense, de par, évidemment, notre situation géographique et les montagnes autour. Mais donc, on a un vrai débat autour de qu'est-ce qu'on met comme soupe pour réhabiliter les friches. Ça coûte extrêmement cher, mais on en a. Et puis sur le foncier disponible, est-ce qu'on met de l'agriculture, est-ce qu'on met des zones d'espace naturel et loisirs, est-ce qu'on met du logement, est-ce qu'on met de l'éco, d'économie. Et ce débat-là, en fait, il devient réel, concret et crucial dans des documents d'urbanisme grâce aussi au plan énergie-climat qui nous a fixé un cap. Donc tout cela permet une cohérence d'ensemble, hein, et pour revenir sur l'utilité d'un plan climat, pour moi c'est ça, c'est l'intérêt, c'est que c'est difficile de voter quelque chose qui n'est pas en lien avec nos objectifs macro, ça nous sert derrière dans les déclinaisons d'outils, et ça nous sert de fer de lance pour aller dans des mises en cohérence qui ne sont jamais faciles parce que rien n'est jamais gagné. Voilà. Peut-être m'arrêter là parce que comme on avait dit 5 minutes chacun, ça fait déjà la grignoter, je pourrais mieux prendre des questions, je crois que je vais continuer, les exposer. Pour une très longue, parce qu'il y a plein de choses extraordinaires, et qui sont très motivantes, mais je pense qu'on pourra en parler dans les questions.
On va se rattraper sur les questions pour la transversale, je vais passer à une au lieu de trois, et de toute façon, on aura quand même un peu de temps pour les questions du public. Mais je pense qu'il y a une question quand même qui est très intéressante de poser, c'est que dans l'élaboration des plans climat, il y a une phase de consultation citoyenne qui est obligatoire. Et il y a beaucoup de territoires qui vont au-delà de cette consultation, qui s'engagent dans une vraie concertation citoyenne, donc qui crée des espaces de concertation, voire de co-construction sur les plans climat. Donc peut-être que vous pouvez témoigner un peu de ce qui se fait concrètement pour rendre la participation citoyenne à ce climat possible sur vos territoires. Et j'espère, si c'est possible, mais de donner aussi peut-être quelques petits conseils aux citoyens ici présents de comment s'engager efficacement pour faire des propositions ambitieuses mais réalistes. Et donc participer d'une façon constructive à la politique d'un territoire.
Merci. Pour reprendre juste, je voulais, par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure,
Moi, je partage complètement le constat qui est fait de plans qu'on peut arriver à mettre en place, mais chacun ne se sent pas engagé. C'est un peu comme les promesses qui ne concernent que ceux qui les reçoivent. Alors, l'impression aussi qu'on a toujours un espace quand on porte cette politique-là pour jouer, un peu entre nous. Et que l'articulation avec le reste de la grande machine, ça fait très difficilement. Ça, c'est une impression qu'on a souvent, qui n'est pas évidente, parce qu'en fait, on ne peut pas lutter contre la parole qui porte ça. Mais on peut résister sur la mise en œuvre de ce qu'on a décidé collectivement. La deuxième chose, c'est la cohérence de l'ensemble des projets. Bon, je vois ce qui a été évoqué tout à l'heure. Ici, on a un périmètre restreint de circulation pour toutes les livraisons dans le centre ancien de Bayeux, avec les Mengol, ici l'abeille hein, qui transporte les derniers kilomètres de livraison depuis des années. Il y a des choses comme ça qui n'ont pas pris après sur le reste du territoire. C'est resté, il y a un réseau de chaleur biomasse qui couvre 10% de la population mayonnaise depuis 4 ans. C'est un territoire PCV. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Là où on a encore des difficultés, c'est en ça que le nouveau plan climat, qui va concerner quand même 158 communes, il est très important à mes yeux. C'est pour arriver à avoir ce lien et un peu essaimer sur toutes les parties du territoire. Plutôt que d'avoir des opérations, certes porteuses, mais qui ne trouvent pas de suite ou qui ne se dupliquent pas ailleurs. Alors, ce plan climat, il est très important. Il y a deux choses dans ce nouveau plan climat qui va démarrer, qui va être celui de la grande agglomération. Une des réflexions, de ma direction là, qu'on a eue ensemble, c'est effectivement de le partager et comment le partager avec le plus grand nombre de personnes. S'il y a une ambition dans ce plan climat, elle est là. C'est la co-construction, la collaboration. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a une volonté politique, en tout cas, personnellement, je vais la porter très fort, et c'est comment on va le réaliser. Alors, bien sûr, on a évoqué plateforme informatique, il faut aller sur tous les pôles du Pays Basque pour aller aussi près des gens, on ne va pas tout faire depuis la ville de Bayonne. On a déjà fait ce genre de choses, des forums, des conférences, etc. Mais il y a quand même la volonté de faire rentrer plus, on va faire un plan climat classique, un diagnostic qui ne part pas de rien, puisqu'on avait déjà des données à travers les plans climat précédents. La partie rurale a été expertisée à travers une démarche climat gris, donc on parle de données importantes à réactualiser. Après, on va construire la stratégie et les orientations et le fameux plan d'action qui, avec la volonté de l'approuver en février 2020. Voilà, ce qu'on s'est fixé, c'est le calendrier de notre plan climat. Dans le cahier des charges qu'on a élaboré, la partie participation de la population, du conseil de développement, de la société civile organisée, des personnalités qualifiées, prend vraiment un espace très important. Pas que pour dire, on l'a fait avec les gens, c'est pas trop ça. C'est important qu'on nous apporte l'expertise d'usage, c'est important qu'on fasse vivre ce lien. Mais au-delà de ça, c'est une façon aussi qui les sème partout. Parce que si on participe à l'élaboration, si on participe à un nombre de manifestations ou de réflexions, on est beaucoup plus individuellement concernés, entreprises concernées, ben je veux dire, tous les pôles peuvent se sentir engagés avec nous dans cette démarche. Et je fais une toute petite parenthèse, en sortant d'ici, sur la droite, il y a l'espace de la communauté d'agglomération, de la ville de Bayonne, du syndicat des métiers et des mobilités, et il y aura la possibilité pour les personnes qui sont ici de s'inscrire, de donner une adresse mail, qui fait que chaque fois qu'on aura une initiative, ben vous serez prévenu par mail personnellement. C'est pas de la publicité, mais si on veut du monde, c'est comme ça que ça commence aussi, en constituant un réseau. Donc ça, c'est une des ambitions de ce plan climat. La seconde, ce sera peut-être d'abord d'arriver à le monter début 2020, parce que c'est pas rien à l'échelle de ce territoire, et d'avoir un plan d'action sûrement très hiérarchisé, peut-être resserré, mais qu'on mènera jusqu'en 2027 jusqu'au bout. Parce qu'il sert à rien de le faire, on a vu avec les agendas 21, les plans d'action absolument exhaustifs pour dire qu'on a touché à tout, et de se perdre, nous et les services, dans le dédale d'un tas d'actions dont on sait que telles toutes n'aboutiront pas. Ça, c'est un travail aussi qui est un peu douloureux quand on a pensé à des actions, parce qu'il faut les hiérarchiser, les prioriser, donc on a envie de tout amener. L'expérience qu'on a nous montre qu'il vaut mieux faire ce travail en amont et arriver avec un plan d'action en bout de course réalisé, sinon à 100%, au moins avec une satisfaction de réalisation importante. Moi, je dis, tout en partageant ce qui s'est dit tout à l'heure sur les plans qui calent les armoires, je pense que l'enjeu est fort et je terminerai là-dessus. On construit notre projet communautaire aussi. C'est en train de travailler. Comme vous avez critiqué, je critique, moi j'ai un mal fou à ce que la colonne vertébrale de notre réflexion communautaire soit tout simplement le plan climat. Alors que c'est une facilité. Une fois qu'on a posé ce que doit être un plan climat, les politiques publiques, elles viennent comme des petites strates s'imbriquer dedans. Et on n'a même plus besoin de repenser. Voilà, il suffit de rentrer dans ces pas-là. Et là, j'ai. Voilà, oui, je vais dire au jeu, on m'a fou à faire accepter cette idée. Est-ce qu'on a peur de s'embarquer dans des choses qui seraient trop contraignantes? Est-ce que je n'ai pas les réponses? Il y a des moments, j'ai commencé à menacer de ne plus participer aux réunions. Parce que, alors on me dit, la transition énergétique, mais il y a d'autres transitions. Transition économique. Oui, mais c'est un autre mode de, c'est penser à un autre mode de développement. Donc on revient au même sujet. Attention, mais la transition énergétique, c'est la transition énergétique. Après, il y a d'autres transitions. Et on n'arrive pas à sortir de certaines articulations-là. Alors que si on imagine une transition, c'est un territoire qui va d'un point et qui va vers un autre, il emporte avec lui l'entièreté des politiques publiques, il emporte avec lui la nécessité, c'est ça la réalité, hein, le développement durable, vous voyez, c'est très simple, c'est la nécessité de répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et je terminerai sur une chose, mais on peut en avoir assez aussi, c'est quand on voit ce qu'on a fait, vous avez une propension de gens qui savent se battre à la course. On n'aurait jamais dû faire ça. C'est des utilisateurs de lunettes absolument remarquables, c'est terrible ce qu'on a fait. Mais demain on fera mieux. Mais aujourd'hui, on a une opportunité. Et l'opportunité, il ne faut pas la louper. Sauf qu'elle nous permettra de pleurer dans 5 ans. Parce que c'est la même connerie que ce qu'on a fait précédemment. Et ça, c'est absolument redoutable. Et on a un débat ici sur l'enrochement des palais, la stratégie publique. Territoire particulièrement impacté dans le golfe de Gascogne par l'érosion, par l'immersion des côtes. Et on a un débat sur les falaises qui est hallucinant, parce qu'on continue à dire, historiquement, on a fait de l'enrochement. Oui, mais historiquement, on n'est pas aujourd'hui. Et la stratégie du recul et de se poser la question de l'activité économique et de la présence résidentielle en extrême bord de falaise, eh bien, c'est vraiment le sujet qu'on évite. On va re-embaucher et on dira après qu'on n'aurait pas dû le faire. Voilà.
Il nous reste 5 minutes sur cette question. Si on peut accélérer un peu, c'est super. Pour laisser du temps au public aussi de s'exprimer.
Ouais, peut-être pour rebondir sur ce que disait Martine. Je me refuse à parler des 4 conditions du développement durable sur démocratie, sociale, l'environnement et l'économique. Parce qu'en fait, je pense que ce prisme-là segmente l'action là où on a envie en fait, d'avoir un mode de vie intégré. Et donc, la façon dont on l'articule, c'est-à-dire qu'on cherche à garantir des sécurités alimentaires, de logement, de mobilité, d'éducation, de sécurité physique. On cherche, deuxième chose, à chérir les biens communs et la nature, à sortir des logiques anthropocentrées, c'est-à-dire qu'on peut gérer et piloter ces biens communs ensemble, et puis à nourrir notre liberté de contribuer. C'est-à-dire que ça ne viendra pas que de la décision politique, mais en fait, chacun a d'abord un besoin d'appartenance, un besoin d'utilité, et que donc il nous faut nourrir cette capacité à agir ensemble. Et donc ça fait un peu sortir des quatre boussoles du développement durable, et qui en fait segmente totalement l'action, notamment quand on arrive à l'économie, puisqu'on dit finalement on s'occupe de social, démocratie, machin, puis on dit ah, on a oublié l'économie, et puis l'économie, finalement on revient avec emploi, machin, et puis on va faire un nouveau port, ou chez nous, un nouveau centre commercial de périphérie pour attirer le chaland et créer de l'emploi. Et donc je pense qu'on doit gagner dans cette transversalité à sortir de cette boussole-là pour arriver sur des choses plus fondamentales, nous garantir des sécurités de base qui nous permettent de construire notre vie, nous garantir un sentiment d'appartenance et d'utilité collective fondamentale. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans ce dialogue autour des plans climat, il y a un premier écueil, c'est la déconnexion entre la pratique des élus et le débat. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on essaie de chercher, de casser les codes et d'appliquer un strict non-cumul des mandats, de baisser les indemnités des élus. Les précédents ont augmenté après la crise de 2008 de 25%. C'est la crise, effectivement, ils avaient besoin de plus. D'arrêter les voitures de fonction, parce qu'on voit encore aujourd'hui des débats, et même des débats publics sur le plan air, énergie, climat, où en fait il y a la voiture des élus qui, avec le moteur qui tourne, le chauffeur sur une place handicapée. Je rigole, mais je rigole pas en fait. C'est la réalité physique, et moi pendant la campagne, je m'amusais toujours à faire des photos de mon petit vélo, avec derrière la ribambelle de voitures noires et les chauffeurs qui discutent entre eux. C'est ça quand même la réalité, et ça envoie une déconnexion. Évidemment, on n'est pas tout à fait. Là, il se passe quelque chose qui est entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait. On sent bien que ce n'est pas tout à fait le sujet. Et puis les débats sont très très chiants. Non, mais il faut juste le dire. Je ne sais pas si vous avez lu un plan énergie-climat, mais lisez-le, c'est mortel. Vraiment, comme un schéma de cohérence territoriale. C'est un pavé comme ça, de 400 pages, mortellement chiant. Donc en pratique, se saisir quand on est citoyen, se saisir d'un machin comme ça, on dit ouh, le produit fini, on regarde, c'est pas drôle. Les débats, parfois, je me suis battu, parfois pendant plusieurs séances de réunion de plusieurs heures, avec à l'époque des petits camarades socialistes, pour une délibération au conseil régional, où on s'est voté une délibération sur l'économie circulaire, et on parlait d'emploi vert, et donc le débat pendant plusieurs fois 3 heures pour dire qu'il ne fallait pas parler d'emploi vert, parce que les verts c'était nous, et donc c'était une victoire politique. Non mais c'est ça, la nature des débats. Là je suis cet exemple, mais on pourrait en avoir plein d'autres avec plein de partis, et c'est pas une question partisane. Hein. Je veux dire, c'est juste pour vous montrer la nature du débat, parce que les mots sont un symbole, et donc parfois on se bat comme des chiffonniers sur un point de détail. Si vous mettez des habitants au milieu de ce débat-là, ils vont dire « Waouh !» Et donc finalement, je pense que un des biais, enfin, ou un des moyens de tirer fil de cette participation, c'est un, de montrer un peu de cohérence. Nous, on a mis en place à Grenoble la tarification sociale de l'eau, on se connecte avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et on envoie directement des chèques. Le bilan de la première année, là, c'est qu'on a envoyé des chèques à 10 000 foyers, parce qu'ils ne peuvent pas dépenser en eau, comme pour la précarité énergétique. Ils ont un certain pourcentage de leurs revenus, de mémoire, c'est 2,4%. Et donc, si leur facture d'eau est supérieure à cela, on leur envoie un chèque pour une tarification sociale. Donc, on donne des signes comme ça forts sur la mobilité, sur la culture, sur l'eau, juste que ça avance dans le bon sens. Et puis, pour la mobilisation, il y a la mobilisation du monde de la société civile organisée, qui vient porter des contradictions très fortes sur des points précis. Donc, là, on pourrait parler du Conseil de développement durable, des sortes d'émanations de la société civile qui sont adossées aux interco. On peut parler évidemment du monde associatif organisé qui vient porter la contradiction sur des points précis sur la mobilité ou sur d'autres sujets, la biodiversité. Et puis derrière, pour les habitants, en fait, ce qui marche bien, c'est le prisme de l'action. Et c'est à partir d'actions concrètes que, petit à petit, les gens peuvent s'intéresser à un sujet de cadre plus général. C'est-à-dire quand maintenant on pense l'aménagement des zones des ZAC, des zones d'aménagement concertées, ben on a changé de stratégie. Plutôt que de faire une immense discussion en plénière, on discute des objectifs et de la stratégie, et ben on commence par planter une pépinière. Donc on fait quelque chose ensemble, on plante. Et en fait, une fois qu'on a planté, une fois qu'on a fait quelques actions comme ça, le dialogue s'instaure. Parce qu'on est prêt à parler d'autres choses. On fait un verger par an à Grenoble, dans chaque quartier de la ville. On fait un verger, donc porté par des collectifs d'habitants. On a plus de 60 espaces d'agriculture urbaine gérés par des habitants. Ça fait 4 environ par kilomètre carré, donc ça fait pas mal de densité. On fait de l'agriculture urbaine, donc, bon, comme ici, on est local, mais sauf que nous, elle est sortie l'année dernière, donc elle est, je crois, à peu près au 10e, on a passé les 100 000 kernes, là où on vient de passer le million de SCO. On a des budgets participatifs, hein, le vote s'est arrêté, donc des projets portés par les habitants, et là, ça touche tout le monde, donc c'est les plus de 16 ans et tous les résidents, donc, aussi permet de sortir de la logique des listes électorales, donc c'est accessible à tous, et là il y a des centaines de projets qui sont portés chaque année, qui sont filtrés par les habitants, plus de 1000 personnes au printemps dernier qui ont filtré les projets pour décider lesquels allaient être soumis au vote, et là on sort de la semaine de vote, et il y a 5700 personnes qui ont voté, qui sont déplacées, donc des habitants de plus de 16 ans, quelle que soit leur nationalité ou leur statut vis-à-vis des listes électorales, qui ont choisi les 10 projets qui allaient être mis en œuvre et qui les mettront en œuvre avec les services. Et ça, tout ça, ça fait qu'on a un espace pour discuter. Comme quand je discutais avec des jeunes, en fait, ou bien je dis maintenant, on va faire une réunion politique, et puis les mecs, ils viennent, qu'est-ce que tu veux faire pour moi pour un logement et du boulot. Je leur dis, bon, bah, les gars, ça démarre mal, j'ai pas de logement sous la main et on n'est pas en train d'embaucher massivement. Et en fait, on change de fil, et on va marcher en montagne, ou on fait du vélo ensemble, et puis une fois qu'on a fait quelque chose ensemble, quand on s'assied autour de la table, et bien la nature des discussions a changé, parce que du coup, on est père, on peut discuter, et du coup, chacun se sent en légitimité d'apporter quelque chose plutôt que de demander quelque chose. Et je crois que c'est par cela que petit à petit, du coup, on arrive à faire passer la société civile dans d'autres sphères de débat et qu'on arrive à les amener à table parce qu'on en a besoin de ces discussions mortellement chiantes autour de la nature du texte parce que c'est des joutes politiques incroyables sur des mots et que ces orientations-là elles font quand même l'objet, même si on vote et qu'on vote sans réfléchir, ben en fait il y a quand même un arrière-cours pour ceux qui voient ce qu'ils votent, il y a des combats qui ne sont pas toujours réjouissants. Donnant un dernier exemple, hein, c'est qu'il faut aussi parfois donner des exemples de rupture de ce que peut faire une politique. Quand à Grenoble, on a décidé d'arrêter le contrat avec Deco et donc de réduire la place de la publicité, de supprimer l'espace public en dehors des abribus, bah, tout d'un coup, ça crée un électrochoc. De dire oui, en fait, le politique peut décider des choses qui changent le mode de vie. Et au lieu d'avoir des panneaux Deco 4x3 ou des sucettes et des écrans vidéo qui vous racontent tout ce qu'il faut que vous achetiez, on a un espace public et un espace de rencontre. Donc c'est par ces choses-là qu'on arrive à avoir du débat et la contribution citoyenne, parce que si c'est juste passer des heures et des heures de réunion sur des schémas de cohérence territoriale ou des plans énergie-climat, c'est objectivement difficile et ardu. Par l'action, en fait, on oublie aussi nos héritages collectifs, hein, on fait quelque chose ensemble et on devient père ensemble.
Alors, il nous reste 10 minutes pour les questions. On va en prendre, je pense, 3 à la fois, comme ça ce sera plus rapide et puis nous répondrons aux questions qui leur plaisent le plus. Voilà.
Merci. Petite question, en tant que citoyen, comment on peut faire pour faire levier si on voit que le plan climat n'est pas à la hauteur, si on voit que les réunions participatives sont orientées, comment on peut agir, voilà, juridiquement ou autrement, etc.
Oui, peut-être pour aller plus loin, justement, peut-être des conseils sur les stratégies, parce que là, on a bien sûr des maires, enfin, des personnes très impliquées et qui sont porteurs de projets cohérents, etc., qui travaillent vraiment là-dessus. Et à côté de ça, nous, les citoyens, on est dans des villes, je vois, avec des maires auxquelles on doit penser tous très fort en ce moment, ils sont purés. Et donc, quelle stratégie, effectivement, développer comment s'y prendre pour faire vraiment avancer les choses, parce que pour autant, il y a quand même des réseaux associatifs forts dans tous ces domaines qui existent, et en même temps une volonté politique en face de pas du tout dialoguer, quoi, très très peu, ou si peu. Donc comment se rendre compte de ça?
Vous avez parlé tout à l'heure de Piquet. Comment, au-delà de votre action, comment est-ce que vous essayez de convaincre les autres élus qui n'ont pas, pas la même sensibilité que vous? On l'a fait avec Nicolas Hulot, qui était dans un gouvernement composé d'autres ministres qui ne partageaient pas toutes ses opinions, et il s'est senti très seul, il n'a pas du tout pu agir. Alors vous, comment au sein de vos communautés d'agglomération, comment est-ce que vous essayez de convaincre les autres élus qui ne partagent pas vos opinions, et comment est-ce que vous disposez pour instaurer des piquets qui permettent ensuite, une fois que vous serez plus en fonction, que ces mesures soient pérennes. Merci.
On va commencer de ce côté de la table, mais si ça peut s'exprimer sur la dernière question.
Ok. Alors, juste du coup, rapidement, et un peu en transversal de ces. Enfin, surtout sur les deux premières questions, en fait, hein, sur la question du rôle qu'on a, nous, citoyens, dans ces politiques-là. On a monté un projet avec Joanim, avec Rebecca, donc avec Alternativa et Réseau Action Climat, qui consiste à se dire qu'on a vraiment besoin de décentraliser le plaidoyer. En gros, les compétences climat, elles sont aussi au niveau local, et donc on a besoin d'avoir des relais citoyens, société civile, qui s'impliquent à la fois dans la co-construction de ces politiques publiques. Et je pense qu'on doit, et là, enfin, les acteurs associatifs ou structurés ou non, hein, on doit s'interroger sur nos modes d'action. Et en l'occurrence, sur ces politiques publiques climat, je pense qu'on a des tas de leviers ultra différents qui dépendent évidemment des contextes dans lesquels on se situe. Mais on a une forte expertise d'usage, et c'est l'exemple ultra classique d'un projet qui va être porté sur, du vélo, et en fait derrière il n'y a aucun citoyen qui l'utilise, ça ne correspond pas à un besoin, et là en tant que relais associatif on a un vrai rôle à jouer. On peut aussi être porteur de propositions, et ça a été très bien dit, un plan climat c'est certes des actions de la collectivité dans le cadre de ses compétences et de son patrimoine, mais c'est un projet territorial, donc il n'y a pas que les élus et les services qui vont porter des projets, on va en porter nous aussi, et ça va s'intégrer dans la stratégie du territoire. Et au-delà de ça, je pense que quel que soit le contexte politique du territoire dans lequel on vit, on a un rôle, nous, de création du rapport de force. Et je pense que c'est, enfin, le Pays Basque notamment le montre bien, mais quand vous avez une société civile au niveau local qui explique à quel point elle est en attente de mesures ambitieuses sur le climat, et qui du coup fait peser une forme de pression à la fois sur des élus qui seraient réfractaires, mais qui permet aussi d'appuyer des élus qui sont moteurs, mais qui ne sont pas forcément majoritaires au moment des votes, on a vraiment quelque chose à gagner. Et du coup, ce rapport de force, il peut être très positif, c'est-à-dire des mobilisations qui montrent à quel point les citoyens du territoire sont porteurs de solutions et attendent des élus, des projets forts. Tout comme dans certains territoires, il y a peut-être besoin d'être un peu plus en démonstration d'une forme d'agacement des citoyens face à une forme d'inaction de certains élus. Mais dans tous les cas, ce rapport de force, il est hyper nécessaire dans le jeu d'acteurs des élus, que vous soyez face à des élus qui sont réfractaires ou des élus qui sont totalement dans votre sens et qui parfois galèrent en interne à faire voter ce document-là. Et sur cette question du rapport de force, bah, je vous invite du coup à éventuellement vous rapprocher de groupes qui existent. Effectivement, il y a plein d'assos, et là sur les projets alternatifs territoriaux, il y a quand même pas mal de groupes qui existent et qui du coup essayent de coordonner des acteurs qui vont porter un plaidoyer un peu technique, parce qu'effectivement, il faut un peu de technicité pour travailler sur ces sujets climat et politique publique locale, mais aussi des gens qui sont super bons en mobilisation, voire en action directement violente, en sensibilisation, et qui vont réussir à monter des campagnes au niveau local de l'implication des citoyens dans les politiques publiques climat et de la création de ce rapport de force nécessaire à la réussite permanente des ambitions de nos élus.
Très, très brièvement, comment vous pouvez faire le bien en tant que citoyen? Faites peur à vos élus, faites peur, occupez les réseaux sociaux, rejoignez-vous, fédérez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent dans des, peut-être sur des secteurs différents. Sur, ben, il y a les AMAP, il y a, donc sur l'agriculture, il y a les trucs énergie citoyenne, et tout ça doit faire, à un moment donné, rassemblez-vous pour faire pression sur les élus. Enfin, il y en a beaucoup qui travaillent uniquement dans le cadre de leur réélection, donc dès que ça bouge un peu du côté des citoyens, ben, ils sont un peu sensibles, mais faites-le pour obtenir des choses, mais faites-le aussi pour encourager les élus qui prennent des bonnes initiatives. Oui. Ça crédibilisera encore plus le fait qu'on, de demander. Et puis, comment convaincre les autres élus? Moi, c'est compliqué. Alors, j'essaye d'abord de le mettre en place dans ma ville, et après, quand même, ils se rendent compte que ça fonctionne, et ils sont un peu gênés aux entournures. Cela dit, c'est quand même pas simple, parce que vous savez, l'état des élus, je vais pas taper sur les élus, c'est pas bien, parce que c'est pas facile tous les jours, mais quand même, le niveau, c'est pas terrible. Et Eric parlait du contenu des réunions et des choses comme ça. Franchement, moi, je fais des réunions des maires de l'agglo, je m'ennuie à mourir, parce que le niveau, il est pas... Enfin, voilà, c'est compliqué de les faire, mais en même temps, ils sont tous en compétition. Je sais qu'ils gueulent parce que j'occupe pas mal la presse et ça les ennuie parce que je suis médiatisé, pas eux. Et voilà, on est vraiment dans ce système de concurrence de ville à ville. Hein. Enfin, c'est une réalité. Et donc, bah voilà, quand vous mettez en place des choses qui fonctionnent, il faut le faire savoir. Et si vous, en plus, la population est derrière vous, bah ça fonctionne. Alors après. Moi, je suis pas trop sur les réseaux sociaux, notamment les groupes Facebook, parce que quand j'ai créé le camp humanitaire, j'ai pris plein de fachos qui se sont vidés sur les réseaux sociaux. Moi, comme je ne regarde pas, ça m'a pas influencé, mais tous les autres élus de l'agglo venaient me voir en disant « Damien, tu te fais assassiner sur les réseaux sociaux ». Je leur dis, je m'en fous, moi, c'est moi qui gouverne, c'est pas les réseaux sociaux, et j'y vais. Et finalement, sur les élections, je suis la seule ville à avoir mis la gauche en tête au premier tour des présidentielles, alors que tous, ils sont pris l'extrême droite au premier tour. Donc, il y a un moment, vous affirmez vos positions politiques, et puis ça marche, et la population comprend.
On peut prendre une dernière question. On va peut-être prendre une femme pour la parité. Bon, deux questions, un homme, une femme. Vous êtes contents? Mais rapidement. Je peux aussi faire très court pour que la parité soit respectée 50-50. Je dépêche. On a beaucoup parlé de comment agir sur les... Pardon. On a beaucoup de comment agir sur les autres élus. Mais quand même, on a dans tout ça, on a dans tout ça beaucoup d'ennemis. On n'est pas dans le monde des bisounours, on a beaucoup d'ennemis. On a beaucoup de lobbies autour de nous qui agissent très fort sur les élus, y compris peut-être sur certains dans nos rangs. Je mets des précautions aussi. Alors, comment est-ce que vous avez fait chez vous pour faire tout ça vis-à-vis du milieu économique? Vous avez parlé tout à l'heure, mademoiselle, de l'union autour de la table, et vous aussi, madame, des chambres d'agriculture, et blablabla. Donc, on sait parfaitement que dans ce monde, tout ce monde nous est hostile, majoritairement encore aujourd'hui. Donc, comment est-ce que vous vous êtes pris pour faire en sorte que, eh bien, vous ayez pu, on va dire, minorer leur capacité de nuisance? Alors, vous, à Bonin, vous êtes bien passé avec un million pour le savoir. Comment vous avez-vous fait pour vous assurer une
Une question à l'élu de Bayonne et de la communauté de communes du Pays Basque. En tant que citoyen bayonnais, j'entends bien les grandes déclarations de politique en faveur d'une transition écologique, et à la fois sur le trajet du train de bus qui s'est construit, il n'y a pas de bicyclable, comme sur toutes les nouvelles infrastructures comme Marie-Ladoux. Alors je me demande, je me dis, est-ce qu'il y a une différence entre les grands discours et la pratique sur le terrain, ou alors, Martine Bisotta, expliquez-moi quelles sont les difficultés qui empêchent notamment de mettre des pistes cyclables sur les aménagements du trambus qui auraient dû être un train, et quelles réflexions et quels regards vous portez sur les initiatives de Grenoble, notamment en termes de publicité ou de réduction de l'éclairage public, qui n'existe pas du tout sur les AV ou sur l'agglomération. Merci.
Merci. Deux minutes.
Alors, j'ai peut-être moins une liste qui existait, mais puisque vous m'en donnez l'occasion, la tarification sociale de l'eau existe. Le dernier kilomètre de livraison existe à Bayonne. Et il y a un réseau de chaleur biomasse à Bayonne, il y a de l'habitat, deuxième tranche de l'écoquartier du Séqué qui va être Bepos. Alors moi j'ai pas fait la liste de tout ce qu'on avait fait, mais je me retrouve complètement dans ce qui est dit. Alors les pistes cyclables, c'est la ville de Bayonne sur la communauté d'agglomération qui en a le plus. On les travaille en nombre de kilomètres, et alors après, j'ai tout à fait conscience que nous n'avons pas résolu le problème, et loin s'en faut. D'abord, il y a un hypercentre dans lequel la difficulté de la piste cyclable vraiment isolée se pose avec beaucoup d'acuité. Je ne partage pas l'idée que l'aménagement du trambus n'est pas fait, mais les pistes cyclables sont prévues avec l'aménagement du trambus.
Elles ne sont pas là.
Alors, sont prévus avec l'aménagement des trambus, et pour ce que je suis, ça va rejoindre le débat qu'on vient d'avoir, à chaque réunion, je vous mets le fer sur l'ouvrage. Là aussi, il y a des difficultés, là aussi, il y a des difficultés de faire valoir ce qu'on pense, peut-être certains élus plus que d'autres, absolument incontournables. Je répète, l'aménagement du trambus est prévu avec les pistes cyclables. Je ne sais pas qu'est-ce qui va en sortir, moi je peux vous dire que à chaque réunion, la chose est demandée. Voilà. Alors attendez que ça avance, puisque actuellement, ce n'est pas fait. Hein.
Je vais essayer de faire jonction entre les deux. Si vous voulez que les réseaux vélos avancent, ben en fait le mieux c'est qu'il y ait des élus cyclistes. C'est qu'on ne peut pas, en fait on ne peut pas, à Grenoble il y a l'accessibilité, on est une des premières villes européennes en matière d'accessibilité. Et le tramway T87 était accessible. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un élu écolo en fauteuil, et en fait il s'est battu partout, il avait la légitimité de son combat, mais aussi tout le monde voyait bien qu'il était en fauteuil. Et donc il y a un moment, en fait, si vous voulez penser de l'aménagement cycliste, ils ne peuvent pas, enfin c'est moins facile qu'ils soient pensés par des gens qui n'utilisent que leur voiture et à qui on a toujours demandé de faire que leur voiture, de prendre que leur voiture et de penser de l'aménagement routier. Donc il y a un moment, ça rejoint la question qui était posée là et celle-là, en fait il y a un moment où il faut juste que, si vous êtes militant, si vous êtes engagé, ben vous disiez, les élus, c'est pas un autre monde en fait. Hein. On n'est pas élu parmi un espèce de corps humain différent dans lequel vous choisiriez des élus. Hein. Les élus, c'est vous, les prochains élus, c'est vous. Et en fait, ce qui a changé à Grenoble, c'est juste qu'il y a un moment, on s'est dit, en fait, on veut gagner. On ne veut pas juste porter pour que les méchants élus ils fassent plus de bicyclettes, on ne veut pas pour que les méchants élus ils s'occupent du climat, on ne veut pas le machin. On dit juste, en fait, on est la majorité culturelle, donc maintenant on veut mettre le projet en acte, donc on veut gagner. Voilà. Et ça répond à la deuxième question, c'est comment on fait pour les cliquer pour que quand on sera parti, ça continue.
En fait, on partira pas.
Moi, je partirai. Évidemment, j'irai faire autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne partirons pas dans le sens où il faut trouver derrière la relève de gens qui ont la même culture de la victoire et qui ont envie juste de gagner. Arrêtez de penser que en fait on interpelle les élus comme on interpelle Monsanto ou Total. On n'est pas Monsanto ou Total. On est vous parce que vous n'avez pas réussi à être élu. C'est tout. Et donc en fait il faut développer cette culture de la victoire. Et pour le faire, dernière, parce qu'après il faut donner de la tactique, lisez le bouquin de Popovitch sur comment on fait tomber un dictateur quand on est seul et tout petit. Je ne sais plus quel
titre exactement.
Petit et sans armes, hein, c'est le gars qui avait tombé Milosevic dans Yougoslavie, ou Cyril, le dernier bouquin de Cyril Dion sur le petit manuel de résistance. Vous trouverez juste là des exemples qui fait comment on met en marche un corps social. Je disais tout à l'heure qu'il faut faire des actions. Chez nous, la métropole est passée à 30 km/h. Il y a 45 communes sur 49, donc ça veut dire que les seuls qui n'ont pas voulu, c'est les ceux qui n'ont pas voulu pour des raisons idéologiques. Il y a quelques... Je dis, c'est pas possible. 45, pourquoi ? C'est parti d'où ? C'est parti de la demande des parents d'élèves et des personnes âgées dans une commune de droite, avec un élu de droite qui a dit, moi j'ai des demandes de machin. Elle a dit, hop, super. En fait, tout le monde, il y a des demandes partout. Ben oui, il y a des demandes partout. Allez, zoom, on y va. Et en fait, tout ça, c'est du coup transpartisan. C'est des actions concrètes qui fait que derrière, ça se met en marche parce qu'on obtient des petites victoires. Si l'objectif, c'est juste que les élus comprennent qu'il faut changer le monde et qu'ils changent le monde, ben, on en reparlera dans 50 ans, dans des conditions qui seront beaucoup moins réjouissantes que celles-là. Mais donc, moi, mon message, c'est juste qu'à un moment, il faut vouloir gagner, mettre en acte un projet. Si on veut juste interpeller, ben, en continuant à faire des manifs devant Monsanto, on sera content, entre nous, effectivement. Mais il y a un moment, il faut être à la hauteur de l'enjeu, et cette enjeu, cette hauteur, c'est notre responsabilité collective.
Merci. Thank you.